c'est aussi d'assurer la sécurité entre l'offre et la demande d'électricité au quotidien et même à 20-25 ans. C'est-à-dire qu'on fait un rapport chaque année disant attention, nous pensons que compte tenu de nos prévisions de consommation sur 20 ans, eh bien, il faut que les investisseurs commencent à réfléchir à avoir plus de centrales d'ici 10 ans pour s'assurer qu'il y aura suffisamment de centrales à l'avenir. Nos prévisions sont plutôt dire que la consommation va se stabiliser et que voilà, il y a des centrales qui vont fermer, il faudra en ouvrir d'autres, mais pas forcément d'augmenter la quantité d'électricité produite. Monsieur Borloo m'en voudrait beaucoup s'il me disait que nous avons des prévisions de consommation très, très élevées pour les prochaines années. Évidemment, dans nos missions à nous, et ça c'est pour ça aussi que pour nous, c'est très important de vous parler à l'IEDAT et tous ceux qui sont sur les territoires. Notre mission à nous, c'est aussi de développer ces lignes, de développer ces lignes électriques. Elles ne se créent pas comme ça. Les centrales bougent, les personnes bougent, hein. Il y a de plus en plus de personnes dans le sud, donc il y a de plus en plus de consommation dans le sud, donc il faut renforcer le réseau dans le sud de la France. De plus en plus de personnes en Bretagne, mais il faut renforcer le réseau en Bretagne. Les centrales elles-mêmes bougent, donc le réseau, il faut le développer. Il faut développer des lignes. Et c'est un vrai défi pour nous, parce que sur le terrain, comme certains d'entre vous le savent, eh bien, une ligne électrique, c'est pas beau, ça pose problème, les riverains n'en veulent pas. Et donc, il nous faut faire beaucoup de concertations, il nous faut beaucoup de travail sur le terrain pour essayer de convaincre de la nécessité de développer nos lignes électriques. Donc c'est un point très important et c'est probablement notre défi le plus important à nous, entreprises, c'est l'acceptabilité sociale des lignes électriques. Hein, après, on peut en parler si on a le temps, hein, toute question de la mise en souterrain des lignes, toute la question de la santé, l'environnement, toutes ces questions-là auxquelles nous avons affaire tous les jours, c'est notre quotidien, c'est de promouvoir l'image de l'entreprise aussi pour faire accepter le fait qu'on a toujours besoin d'électricité en France. C'est qu'en 1965, je ne sais pas tout aparté, François Mitterrand, dans sa campagne présidentielle, son affiche, hein, vous savez, en 80, il y avait une petite église, hein, et bien son affiche, c'est un pylône électrique. 1965, on faisait campagne avec un pylône électrique derrière soi. Imaginez un homme politique de nos jours faire campagne de cette manière-là. Donc, c'est vous dire comme les choses ont beaucoup évolué. Et donc, d'où cette importance pour nous d'intégrer nos ouvrages et nos activités dans l'environnement en France. Donc, nous, entité RTE, c'est d'autant plus important d'exister par cela et d'exister par nos activités sur le terrain. Je ne reviens pas, je vous en ai parlé, hein, donc de tous les acteurs qui sont raccordés au réseau, hein, les unités de production, les distributeurs. Un petit mot quand même, je vous ai parlé des DNL, les distributeurs non nationalisés, ce qu'on appelle maintenant les entreprises locales de distribution. Après la guerre, il y a un certain nombre de systèmes de distribution qui n'ont pas été nationalisés. Parmi vous, il y en a qui sont du côté de Metz, de Strasbourg, de Bordeaux en particulier, de Grenoble. Bref, il y a des grandes villes en France qui ont gardé leur système de distribution. Hein, votre facture, ben c'est la régie de Grenoble ou autre. Donc il y a un système qui est prévu à cet effet, sachant que il y a certains, par exemple à Metz, ils ont même des lieux de production, qui sont même des toutes petites centrales de production qui n'avaient pas été nationalisées. Et puis les sites industriels, je vous en ai parlé tout à l'heure. La distribution de l'électricité, hein, très rapidement, donc cette entreprise qui s'appelle ERTF, qui est aussi une filiale de TF1 à 100%. Alors, la différence majeure, hein, entre RTE et ERDF, eh bien, c'est que les réseaux de distribution sont la propriété des collectivités locales. Nous sommes propriétaires de nos lignes. Là, nous sommes dans un système de propriété par les collectivités locales, donc dans un système de concession. Hein. Cette concession, ben, ça veut dire que les collectivités locales délèguent à ERDF la gestion, la distribution de l'électricité. Et donc, ça veut dire un dialogue, certains d'entre vous ont peut-être entendu parler des syndicats d'électrification, mais qu'est-ce que c'est? C'est ce dialogue qu'il y a entre les élus et ERDF. Nous avons un contrat de service public, mais notre contrat, il est avec l'État. La concession que nous avons, en quelque sorte, c'est l'État qui le fait. Et si on prend des images un petit peu routières, en quelque sorte, nous, c'est un petit peu les grandes autoroutes, les intra-régionales, les grandes lignes à haute tension, et puis les grandes départementales. Et ERDF, ça va être plutôt les petites départementales et les voies communales. Les petites lignes que vous voyez dans les communes, eh bien, ce sont les lignes qui sont gérées par ERDF. En termes de kilomètres, nous avons 100 000 kilomètres de lignes. Je ne viens pas dire nous, mais le réseau, c'est 100 000 kilomètres de lignes. ERDF, c'est 1 million. Donc, ça veut dire la différence. La différence entre les deux. La décomposition du coût de l'électricité, on en a parlé tout à l'heure. Donc, les taxes sur votre facture d'électricité, grosso modo, les taxes, c'est environ 37%. Ça revient en 25-26%. La production elle-même et c'est 38%. Et l'acheminement, c'est-à-dire RTE et RDF, c'est 37%. Si on oublie les taxes, notre façon de voir les choses, c'est que 55% de votre facture hors taxes, c'est la production d'électricité, c'est tous les coûts de production et de commercialisation. 45%, c'est l'acheminement, c'est le transport et la distribution. Et nous, c'est à peu près 10%, et ERDF, c'est à peu près 35%. Il y a un autre point qu'il faut que vous sachiez aussi, qui est toujours important à savoir, c'est que dans votre facture, donc vous avez taxes et contributions, et notamment vous avez une contribution qui s'appelle la CSPE, contribution aux charges du service public d'électricité. Et cette contribution, eh bien, c'est celle qui est utilisée pour subventionner toutes les énergies renouvelables. Lorsque l'on dit que EDF est obligé de racheter l'énergie produite par les éoliennes ou par les centrales photovoltaïques. Mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'elle va effectivement racheter à un prix qui est fixe. L'État a fixé le prix. Sur le dos, le prix de l'électricité est à 60. Le prix des énergies éoliennes, c'est à 100. Donc, il rachète à 100, mais la différence, les 40 EDF va vendre, EDF va vendre à 60, et bien la différence, les 40, et bien c'est une subvention qui est apportée grâce à cette contribution. Donc vous financez les énergies renouvelables via la CSPE. C'est un système de subvention. Alors ça finance les surcoûts. Encore c'est top, absolument. La CSPE, c'est une part assez importante. Non, pas très importante. Non, pas très. Bon, alors, comme vous voulez.
C'est la moitié du coût encore.
Mais en tout cas, c'est effectivement, ça sert aussi pour mutualiser, en quelque sorte, l'ensemble des coûts, non seulement sur les territoires métropolitains, avec, en solidarité avec la Corse et les DOM-DOM. Le prix de l'électricité. Alors, là, on commence à ouvrir la discussion, notamment sur l'ouverture du marché. L'ouverture du marché, est-ce que ça fonctionne et comment? Mais il faut savoir que le prix de l'électricité, pour le ménage, il est très souvent encore réglementé. Donc, comme vous le voyez, le prix de l'électricité en France, pour les particuliers, il est encore très faible. On est à 120 euros par mégawatt-heure, à comparer par exemple à l'Italie, où il est presque deux fois plus élevé. Pourquoi? Parce que le choix qui a été fait dans la plupart des pays pour l'instant, c'est de réglementer les prix et souvent les subventionner. France, on peut penser qu'une partie de notre électricité est subventionnée, c'est-à-dire que le prix que vous payez est inférieur au coût de revient de production, de distribution et de transport de l'électricité. C'est d'ailleurs pour ça que Pierre Cadanex a expliqué ce qui a beaucoup choqué, mais c'est sur la base de cela, Pierre Cadanex a expliqué qu'il fallait, dans les trois prochaines années, augmenter le prix de l'électricité de 20%. 20%, c'est parce que, au prix actuel, nous sommes inférieurs au coût de revient, et donc, les producteurs disent qu'ils ne seront plus profitables si l'État continue à fixer ses prix à ce niveau-là. Alors, c'est ce qu'ils disent eux. Je ne peux pas vous dire si c'est vrai ou pas. Ce que je peux vous dire, c'est que nous, en tant que transporteurs d'électricité, notre prix est fixé pour assurer une rentabilité définie environ à 7%, pour assurer la rentabilité minimale, point. Donc, je ne débattrai pas ensuite sur le bon niveau ou non des producteurs. Le prix de l'électricité en Europe, comme vous le voyez, et ça c'est un petit peu une allusion à une discussion que vous avez peut-être aujourd'hui, qui est chère, je crois, à Pierre, c'est de dire que, comme vous le voyez, au moment de l'ouverture, le prix de l'électricité était très faible, partout en Europe, et que ça a rendu beaucoup plus facile l'ouverture du marché de l'électricité. Parce que à ce moment-là, vous savez, oui, mais si on ouvre l'électricité, on met en concurrence, bon, finalement, avec le prix du pétrole, c'est pas très très grave, l'électricité n'est pas très chère. De nos jours, je pense que ce serait beaucoup plus difficile à faire. Et pourquoi ? Parce que le prix de l'électricité évolue en fonction du prix du pétrole. Vous allez dire, mais pourquoi finalement ? Il évolue en fonction du prix du pétrole parce que, comme je vous l'ai dit, l'électricité ne se stocke pas. Donc, lorsque vous allumez votre électricité, vous allez prendre l'électricité dans la dernière centrale qui vient d'être mise en marche pour utiliser votre électricité. Donc, c'est la production marginale, en quelque sorte. Et quelle est cette dernière centrale ? Eh bien, cette dernière centrale, c'est celle qui est la plus chère, parce qu'on va faire d'abord marcher les centrales qui sont moins chères. Et les centrales qui sont les plus chères, eh bien, ce sont les centrales thermiques. Et donc, ce sont les centrales qui fonctionnent au gaz ou au fioul. Et d'où le fait que le prix de l'électricité reflétant le prix de la dernière unité produite, eh bien, le prix de l'électricité sur le marché spot va évoluer en fonction du prix du pétrole. Et à cause de ça, puisque le prix du pétrole a tout de même augmenté, hein, puisqu'on était à 20 dollars au début des années 2000, eh bien maintenant nous sommes, même si ça a baissé, hein, nous sommes à 60, alors maintenant ça a baissé, on est à 40, mais on est au moins deux fois plus cher sur le prix spot. Et en ce sens-là, on se dit, ben, si on déréglemente en France, par exemple, hein, l'argument de Pierre Cadanex qui veut augmenter l'électricité, hein, puisqu'on était, on n'a pas suivi cette évolution des prix, eh bien, si on déréglemente, l'électricité va fortement augmenter. Donc, est-ce qu'on est prêt socialement à le faire ? Est-ce qu'on est prêt à vraiment avoir un prix d'électricité qui évolue en fonction des prix du pétrole ? Est-ce que si le pétrole passe à 150 dollars à nouveau l'année prochaine, on est prêt à avoir l'électricité qui va également doubler au même moment ? Ou est-ce qu'il ne faut pas réglementer au minimum pour les particuliers, pour des raisons sociales, le prix d'électricité ? Donc ça, c'est un vrai débat. Jusqu'où va-t-on en termes d'ouverture ? Est-ce qu'on peut ouvrir aussi les prix pour les particuliers ? C'est-à-dire que dans beaucoup de pays d'Europe pour l'instant, le choix a été fait pour des raisons sociales, donc de ne pas le faire et de continuer à réglementer, même si il peut y avoir des règles plus ou moins, hein, d'ajustement, mais au moins de s'assurer qu'il n'y ait pas une variation qui se fasse en fonction du marché, en quelque sorte. C'est pas toujours, c'est rarement vrai, en revanche, pour les industriels, sauf en France, hein, puisque en France, les industriels, sauf les électro-industriels, les industriels ont toujours un tarif réglementé au moins jusqu'au 1er juillet 2010. On va revenir sur ces chiffres-là tout à l'heure. Où est-ce qu'on en est en termes de temps? Ça va?
Ça va.
Rapidement, parce que c'est aussi un secteur important, hein, sur le gaz naturel. Juste pour d'abord vous indiquer donc comment ça fonctionne, hein, la chaîne du marché du gaz naturel, hein, parce que c'est un marché légèrement différent. Et bien, d'abord, hein, donc, il faut trouver des gisements. Les gisements, ils sont pas pour lesquels la France, par exemple, ils ne sont pas en France, mais là, il n'y a quasiment plus rien. Donc, c'est des gisements terrestres ou marins. La plupart de notre gaz pour lequel la France est importée de Norvège, des Pays-Bas, de Russie et d'Algérie. Et après, il faut transporter ce gaz. Donc là, il y a deux solutions. Soit on a des gazoducs, soit on transporte par voie maritime grâce au gaz naturel liquéfié, donc au méthanol. Donc il y a deux marchés de transport. Le GNL se développe de plus en plus. Et le GNL se développe de plus en plus parce que ça permet justement de diversifier l'accès aux producteurs. On peut sortir de cette relation que nous avons et qui est compliquée pour nous avec quatre pays. Et donc, on peut aller chercher du gaz en Afrique en particulier, du côté du Nigeria, des Golfe de Guinée de façon générale, voire ailleurs. Et donc, ça nous permet aussi d'être meilleurs en termes de négociation avec les fournisseurs. Ensuite, ce gaz, il faut le stocker. Et donc là, on a un système en fait où normalement le stockage avec l'ouverture du marché, dire ben voilà, moi je peux avoir la possibilité d'acheter mon gaz où je veux pour le vendre à qui je veux. Mais c'est plus compliqué que ça. Donc en fait, comme le stockage est en termes de besoins en capitaux très important, il n'y a que deux entreprises qui exploitent le stockage en France, qui sont Gaz de France, qui gère 12 stockages principalement dans le bassin parisien et le sud-est. Et puis TIGF, hein, qui est une filiale de Total Infrastructure Gaz France, qui exploite deux sites dans le sud de la France. Mais encore une fois, la loi de 2004 permet aux entreprises disposant d'une autorisation de fourniture de gaz naturel d'accéder au stockage souterrain, même si pour l'instant ça n'est pas le cas. Ensuite, il y a le transport et la distribution. Alors là, on revient un peu dans même esprit que tout à l'heure. Hein. C'est les transports, ça va être ces gazoducs qui vont amener l'électricité chez vous. Là, on pourrait dire nous sommes dans un système de monopole naturel. Est-ce qu'on peut avoir pour chaque fournisseur de gaz ses propres gazoducs? Alors en fait, donc, il y a une ouverture qui est très très limitée. Et donc le réseau de transport du gaz naturel est en fait exploité par deux opérateurs. L'un qui s'appelle GRT Gaz, qui est une filiale à 100% de GDF Suez, donc c'est l'équivalent un petit peu de RTE dans le gaz. C'est donc les gros tuyaux, les gros gazoducs en France sont exploités par, j'allais dire, notre homologue dans le domaine du gaz, qui s'appelle GRT Gaz, sauf pour une petite partie de la France, où là c'est TIGF qui joue ce rôle. Et puis ensuite il y a la distribution, qui sont les petits gazoducs, hein, qui est un peu l'équivalent de ERDF, hein, vous vous souvenez, pour la distribution de l'électricité, et bien c'est une entreprise qui s'appelle GRDF, qui là aussi est filiale à 100% de GDF Suez, et donc qui gère la fourniture dans les communes, hein, ça représente 9265 communes qui fonctionnent au gaz, hein, pour 77% de la population française. Pour juste vous donner une idée, hein, notre entreprise, nos pilotes sont présents dans 18 000 communes. Par définition, ERDF est présent dans quasiment partout pour apporter de l'électricité à tous. Donc, en revanche, du côté des fournisseurs, là, par rapport à... On n'a pas parlé des fournisseurs du côté de l'électricité. L'électricité, on compte en ce moment une dizaine de fournisseurs. Donc, à part EDF, vous avez Gaz de France Suez, qui est un autre fournisseur. Vous avez sans doute entendu parler de Paweo, hein, qui est de direct énergie du côté électricité. Puis vous avez des petits fournisseurs, par exemple, il y a un fournisseur qui s'appelle Enercop. Alors Enercop, eux, ils n'achètent l'électricité que l'électricité qui vient des énergies renouvelables. Alors évidemment, l'électricité qui arrive chez vous, ce n'est pas forcément l'électricité qui vient des énergies renouvelables, parce que ça, c'est des électrons qui circulent, mais par un jeu d'addition, ils ont l'assurance que c'est une électricité qui vient bien d'énergie renouvelable. Pour les marchés du gaz naturel, donc pour les clients résidentiels, vous pouvez toujours faire appel à Caisse de France Suez, mais vous pouvez faire appel à EDF, EDF qui maintenant vend du gaz, vous pouvez faire appel à Paweo également, à Direct Énergie, à Altergaz, et puis il y en a d'autres, et puis pour les clients non résidentiels, pour les entreprises, il y a maintenant 73 opérateurs qui ont obtenu une autorisation de fourniture de gaz. Donc, un tout petit peu plus d'ouverture dans ce domaine, dans ce domaine-là, même si ça reste en fait en termes de part de marché assez limité. La décomposition du coût du gaz, donc grosso modo, le gaz lui-même, c'est à peu près la moitié. C'est un peu moins dans l'électricité. Hein. Sur l'électricité, je vous ai dit 55%. Là, c'est 50%. Et puis tout le reste, notamment la distribution, le stockage et le transport, ça fait à peu près 50% si on exclut la commercialisation qui représente 8%. Ça fait 42% et 8% pour la commercialisation. Les prix du gaz en Europe, là on est dans la même problématique. Jusqu'où on va en termes de libéralisation du prix du gaz. Et comme vous le voyez, ça varie fortement entre les pays. Là encore, la France, même si elle importe l'intégralité ou presque de son gaz, eh bien, a un prix du gaz qui est inférieur à la moyenne européenne. Donc, on peut considérer que en France, pour les particuliers, pour les ménages, eh bien, c'est un prix qui est subventionné, qui ne correspond pas véritablement au prix de revient des importations. Et donc, Caisse de France, Suez, dit toujours qu'il considère que le prix du gaz devrait être plus important. Alors, comment est-ce qu'ils se débrouillent? Ben, ils se débrouillent notamment via leur marché à l'étranger. Puisque sur le marché à l'étranger, les prix ne sont pas subventionnés. Donc, en fait, ils sont largement bénéficiaires sur un certain nombre de marchés non français. Un mot sur la commission de régulation de l'énergie dont je vous ai parlé tout à l'heure. Je ne vous ai pas dit que la commission de régulation de l'énergie fait comme dans le domaine de l'électricité, c'est-à-dire qu'elle régule le gaz, hein, le marché du gaz, elle régule GRT gaz, notre équivalent, elle régule GRDF, l'équivalent de RDF, et donc vérifie à tout moment que l'accès au réseau public d'électricité, et j'aurais dû évoquer le gaz, est bien assurée. Elle fait donc des propositions de tarifs d'utilisation du réseau. Hein, je vous ai parlé de nos tarifs que vous ne pouvez pas fixer comme ça. Là, on parle de propositions parce qu'en fin de compte, c'est le gouvernement qui donne son dernier accord. Nous allons dire, voilà, nous pensons que ça vaut 100. La commission de régulation de l'énergie va généralement dire, vous exagérez un peu, je pense que ça vaut 95. Et puis, va dire à l'État, nous on est d'accord, mais seulement sur 95. Et puis l'État va finalement dire oui ou non. Quel est le tarif? Donc la dernière décision est prise par le gouvernement. Le contrôle des investissements, et notamment de RTE, alors ça c'est important aussi, hein, parce que il doit vérifier que nous faisons suffisamment d'investissements pour assurer la sécurité d'approvisionnement, pour assurer la qualité de fourniture de l'électricité chez vous. Parce qu'on pourrait très bien dire, notre profitabilité, elle est tant, mais avec ces investissements, on va peut-être pas forcément augmenter notre qualité. Donc, il vérifie que nous faisons les investissements nécessaires pour jouer notre rôle et assurer la sécurité d'approvisionnement. Et puis, nous pourrons avoir des litiges avec nos clients. Là, autant on a très peu de litiges avec du côté des grands fournisseurs, des producteurs, autant on peut avoir des litiges dans les raccordements en particulier. Hein, par exemple, certains vont dire que une ELD va dire oui, mais vous ne nous raccordez pas suffisamment, ou vous avez dit que vous apporteriez une qualité de temps, on n'est pas d'accord avec ça, etc. Ou des grands industriels, avec des papeteries. On a eu des litiges, par exemple, avec des papeteries qui considéraient que la qualité de fourniture d'électricité n'était pas suffisante, hein, puisque les papeteries, c'est extrêmement sensible à la qualité de fourniture d'électricité. Donc on a pu avoir des litiges avec eux. Des micro-coupures, exactement. La creux vérifie aussi que les marchés eux-mêmes, les transactions sur les marchés, ça ne regarde pas, mais entre les producteurs, fonctionnent bien également. Et puis on en parlait tout à l'heure, elle fait le calcul de la contribution au service public de l'électricité. Alors l'ouverture du marché de l'électricité au 30 juin 2009, hein, la CRE publie tous les trimestres des chiffres. Donc au 30 juin, si on prend les résidentiels, il y avait à peu près 30 millions, hein, à peu près 30 millions de sites, hein, donc de personnes qui sont raccordées, de ménages qui sont raccordés, de foyers qui sont raccordés à l'électricité, il y a à peu près 1 million. On vient d'atteindre le million de personnes. Donc ça veut dire un peu plus de 3% du marché maintenant, hein, qui n'est pas à ERDF, qui est auprès de fournisseurs alternatifs. Donc c'est le verre à moitié vin, à moitié plein ou à moitié vide, c'est comme on dit. On peut dire ouais, 30 millions, il n'y en a qu'un million, et puis se dire finalement un million, ça avance. Chacun a sa vision des choses. On peut penser probablement que quand on avait commencé à ouvrir le marché en 2000, on pensait qu'on irait un peu plus vite que ça. Mais ça commence à avancer. Donc les non-résidentiels, c'est un peu plus, hein, puisque c'est 7,4% du marché maintenant. Alors, quand on parle des sites d'Artam, hein, c'est toutes ces entreprises qui sont dont le tarif est réglementé, qui bénéficient, c'est 20% de plus que le tarif au particulier, et c'est un tarif qui est fixe. Du côté du gaz, c'est un peu mieux. Sur les 10 millions de particuliers, il y a plutôt 11 millions, il y a à peu près 1 million 118 000 maintenant qui sont un peu plus que ça, 1 million plus, ils sont presque 1 million 7. Et donc ça fait à peu près 5,4%. Du marché. Et puis donc, du côté des non-résidentiels, c'est 15% maintenant. Donc l'ouverture est plus rapide du côté du marché du gaz, mais elle reste encore relativement grande. Donc le bilan, hein, on en a parlé. Les Français sont globalement mal informés sur les nouvelles possibilités ouvertes par la libéralisation du marché. 80% des Français, selon les sondages, ne sont pas encore intéressés aux offres des nouveaux fournisseurs. 76% des Français ne sont pas en mesure de citer un fournisseur d'électricité autre que EDF. C'est pour vous dire que ça prend du temps et que ça prendra encore pas mal de temps. Les offres commerciales des fournisseurs alternatifs sont-elles accessibles? C'était une question qui était posée par l'Association des consommateurs européens. Comme vous le voyez, il y a une différence entre les pays. Du côté de l'électricité, pour 45%, on est plutôt dans du ni oui ni non. Les gens ne se prononcent pas vraiment ou pensent qu'elles ne sont pas vraiment accessibles sans. C'est partagé. À 25%, c'est des pays comme l'Italie, les Italiens pensent que pour l'instant ils n'arrivent pas à avoir accès à des fournisseurs alternatifs, alors que l'ouverture du marché est beaucoup plus importante en Italie qu'en France. Et du côté du gaz, là aussi, en Europe, on hésite. On hésite, hein, puisque 70% des Européens pensent que ils ne sont pas sûrs que vraiment il y ait une ouverture effective. Grosso modo, lorsqu'on regarde la France, hein, donc on est le taux de changement de fournisseur d'électricité oscille entre 0 et 18% dans les foyers éligibles. Voilà, c'est plutôt ce graphe-là que je voulais vous montrer. là, là vous voyez, hein, donc en Pologne, le changement de fournisseur d'électricité chez les clients domestiques et les petites entreprises, c'est 0%. Et puis ça monte jusqu'en Royaume-Uni où c'est 18%. Les Anglais ont beaucoup plus changé de fournisseur d'électricité ces dernières années que le reste de l'Europe. L'ouverture avait commencé avant même, hein, l'ouverture par la Commission européenne, et donc un marché s'est véritablement créé. L'Italie est à 3% en 2007, hein, donc ça a beaucoup évolué, et donc la France a dépassé les 3%. Là, on était à 2,2 en 2007. Un pays comme l'Allemagne n'est pas beaucoup au-dessus, on est à 3,2 en 2007. Et puis après, les Néerlandais, par exemple, sont beaucoup plus. Le pourcentage d'ouverture un petit peu plus élevé. Du côté du gaz, changement de fournisseur de gaz chez les clients, là aussi, Royaume-Uni largement en tête en quelque sorte, en termes d'ouverture, 18%, avec les Espagnols et les Néerlandais. Alors, la dernière façon de voir cela, c'est la part du marché électricité détenue par les trois fournisseurs principaux. Hein, c'est aussi une façon de voir s'il y a de la concurrence ou pas. Eh bien, comme vous le voyez, il y a un certain nombre de pays, du Portugal par exemple, 100% est détenu par les trois fournisseurs principaux. Donc, il y a une sorte d'oligopole entre ces fournisseurs. Et puis le plus ouvert étant la Norvège qui, les trois fournisseurs principaux, n'ont que 35-36% du marché. Alors entre les deux, vous avez des pays comme l'Italie par exemple, qui où il y a un peu plus de 60% pour les trois fournisseurs principaux d'électricité. Et puis je ne sais pas si la Grande-Bretagne.
Le Royaume-Uni
n'y
est pas.
Donc, ce sera intéressant de voir cela, mais je pense que le Royaume-Uni est beaucoup plus ouvert. Ces chiffres viennent de ERGEG, et ERGEG, c'est l'association des régulateurs européens. Et probablement, je crois que le Royaume-Uni y est, donc je sais pas si faudrait que je regarde pourquoi est-ce que le Royaume-Uni est exclu de ce graphe. Et puis du côté du gaz, eh bien, on a aussi une ouverture qui est limitée selon les pays. Vous constatez par exemple quand même qu'en Italie, là aussi, on a 66% pour les trois fournisseurs principaux. Voilà. Pardon.
La France, c'est drôle parce que c'est la seule qui.
Qui a progressé dans la concentration.
Oui, alors je pense que ces chiffres.
C'est un effet statistique.
Ces chiffres sont des statistiques, effectivement. Je ne sais pas comment ils sont exactement produits, mais je pense que les variations d'une année à l'autre ne sont pas les plus significatives.
C'est pas la fusion GDF-Suez,
c'est la fusion GDF-Suez. Peut-être qu'ils ont pris en compte la fusion GDF-Suez, absolument. Peut-être qu'ils ont pris en compte déjà comme effectif à ce moment-là. C'est peut-être l'une des raisons. Donc voilà grosso modo les principaux. Hein, qu'est-ce que ça veut dire en pratique cette ouverture du marché, comment ça fonctionne, quelle est la réalité, est-ce que c'est effectif. En résumé, c'est beaucoup de textes, beaucoup d'organisation et une mise en concurrence qui est lente. Est-ce qu'il fallait le faire ou est-ce qu'il ne fallait pas le faire? Chacun aura son point de vue, là-dessus. Je pense que a posteriori, on s'aperçoit que c'est beaucoup plus difficile qu'on ne le pensait, que et l'électricité et le gaz ne sont pas des biens comme les autres. Pour le cas de l'électricité, c'est un bien qui ne se stocke pas. Donc sa valeur marchande, en quelque sorte, son côté marchand n'est pas du tout le même. L'électricité produite par une centrale nucléaire c'est pas du tout le même coût que l'électricité produite par une centrale thermique, par exemple. Et donc, vous avez des disparités qui peuvent se faire entre les pays et selon l'heure à laquelle vous consommez l'électricité. Et donc, vous allez avoir, à partir de là, avoir des marchés très difficiles, et un marché européen très difficile à se construire et qui peut mener à des disparités importantes. Je n'ai pas évoqué dans tout cela, en plus, toute la question du CO2 et de ce que ça peut avoir comme conséquence sur l'organisation de ces marchés. Mais bien entendu, si on a un peu de temps pour le débat, c'est quelque chose que l'on pourra aborder.